parle d'économie.
À Kisangani, une trentaine de producteurs agricoles étaient sensibilisés sur une nouvelle technique de fertilisation du sol. Objectif visé par cette formation, augmenter la production en vue de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. 1 milliard de dollars américains, c'est la contribution du secteur extractif au trésor public congolais. L'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, a rendu public son rapport 2013. D'après le coordonnateur national de ces mécanismes en RDC, la population doit demander au gouvernement de rendre compte des affectations de cet argent. À Mbujimayi, deux communes pilotes sont désormais dotées des structures de gestion des marchés publics. Une formation a été assurée à leur intention par l'ARMP en partenariat avec le PNUD. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Ce magazine part de Kisangani où le producteur agricole était sensibilisé à adopter une nouvelle technique de fertilisation du sol. Il s'agit de la technique de gestion intégrée de la fertilité du sol, GIPS en sigle. Une trentaine d'entre eux ont bénéficié d'une formation à ce sujet le week-end dernier. Côte-Live, Omondo.
Au total, 37 participants, dont 30 agronomes et 7 producteurs agricoles, membres de l'IPDQI, sont pris part à cette rencontre. Ce paquet technologique consiste en l'utilisation des bonnes techniques culturales, l'utilisation des bonnes semences et engrais minéraux, et aussi la matière organique. La bonne conservation et protection du sol sont également recommandées. L'objectif est notamment l'augmentation de la production en vue de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Sandra Kavira, agronome national en charge de la gestion intégré de la fertilité du sol basé à Bukavu.
Cette technologie permet aux producteurs d'augmenter 4 fois plus la production. Ça, c'est un cas vécu, un cas concret. Et si vous pouvez aller voir au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu, vraiment, ce sont des cas réels. L'avantage, c'est d'augmenter d'abord la production, comme je le disais, mais aussi les revenus au sein des ménages. Les producteurs arrivent à payer les soins médicaux pour leurs enfants, à construire, à acheter même, à faire même l'élevage. Donc, ça signifie que c'est une chaîne de résultats que je ne saurais pas détailler ici. Ça dépend d'une famille à une autre. La spécificité de ce paquet est que nous faisons recours aussi à la matière organique et à d'autres pratiques culturelles.
Pour l'UPDKIS, ces enseignements tombent à point nommé. Selon son président, Kwazatis Munganza, l'adoption de cette nouvelle technologie aidera à réorganiser ce secteur de l'agriculture chez les paysans. Une occasion également de leur permettre de jouir du fruit de leur travail. Kisangani, Goodlive Omondo, Okapi Économie.
Je le disais au sommaire, à Goma, l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, a rendu public hier mardi son rapport 2013. D'après les coordonnateurs nationaux de ce mécanisme en RDC, la contribution du secteur extractif au trésor public congolais est autour de 1 milliard de dollars américains. Pour que la vie du Congolais s'améliore, le professeur Mac Douba Jérémy, coordonnateur national de l'ITIE RDC, appelle la population congolaise a demandé des comptes au gouvernement quant à l'affectation des recettes perçues à partir des industries extractives. On l'écoute au micro de Freddy Bikumbi.
Le rapport ITIE a dit ce que l'État a dit, j'ai reçu autant. Vous avez vous-même dit le montant. 1 milliard 800 millions, quand nous enlevons la TVA de 400 millions, nous arrivons à 1 milliard 400 millions que le Trésor public a perçu. Vous voulez que l'État maintenant frappe les gens pour faire le débat ? L'État n'a pas cet intérêt. L'État a dit ce qu'il a reçu. Les entreprises ont dit ce qu'ils ont payé. On a réconcilié, l'écart est nul. Maintenant, vous dites que la vie de la population ne change pas. La population doit dire maintenant qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Et le gouvernement vous dira, de cet argent, voilà, on a fait ça, 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 ça. Les parlementaires qui doivent poser la question de ce qu'on a fait de l'argent, ce sont eux qui votent le budget. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui aller à l'ITIE pour dire, vous nous dites ça, mais notre vie ne change pas. L'ITIE est un instrument, est un outil que l'on met entre les mains de la population.
Restons toujours dans le Nord Kivu, en territoire de Walikale. Le projet visant le décarpissement des creuseurs artisanaux de la mine des Bissiyé au profit de la compagnie MPC Alpha Mine préoccupe les populations, tout comme la question de la gestion du stock des minerais gardés sur ces sites après la mesure des suspensions de l'exploitation minière en 2010. Les détails avec Sifa Maguru.
Depuis quelque temps en effet, les créateurs artisanaux des Bissiers s'opposent à leur déguerpissement du site des Bissiers, tandis que la société MPC Alpha Mine, qui a obtenu les permis d'exploitation industrielle, refuse elle aussi de voir les artisanaux travailler sur les 10 sites. Une situation qui embarrasse la communauté de Walikale. Pour le ministre provincial des Mines, la situation est claire. Il ne peut y avoir exploitation industrielle et artisanale sur un même site. C'est pourquoi les artisanaux doivent comprendre et quitter Bissié. L'autre aspect du problème qui préoccupe les artisanaux et la communauté de Walikale, c'est l'évacuation du stock de cassitérite produit avant la suspension des activités minières décidée par le gouvernement en 2010. Ce stock est estimé entre 1250 et 1500 tonnes de cassitérite qui doivent être évacuées d'après le ministre selon les procédures de traçabilité. Tout comme il y a la signature du protocole entre la MPC et les membres de la communauté qui tarde à se concrétiser. Pour sa part, le ministre Jean Ruyangue a rassuré en soulignant que toutes les préoccupations seront prises en compte par le gouvernement et qu'une solution devra être trouvée très prochainement. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Quittons le nord pour le Sud Kivu où il y a une remise officielle par la MONUSCO Sud Kivu de la route réhabilitée sur l'axe Minova-Shondo à l'administrateur ad intérim du territoire des Calais, hier à Minova. Minova est une cité située à 150 km au nord de la ville de Bukavu dans le Sud Kivu. Selon le chargé de l'unité de gestion des affaires civiles de la MONUSCO Sud Kivu, la route réhabilitée est distante de 25 km. D'après Emmanuel Chimanuka, le coût des travaux s'élève à 90 000 $ américains. Réhabilitation saluée par l'administrateur ad intérim du territoire des Calais. Impact de la réhabilitation de ce tronçon routier avec Ezekiel Batoumike de la radio Bubandano de Minova.
Le chargé des affaires civiles de la MONUSCO Sud qui vous parle de la cohabitation pacifique entre les communautés créée à la suite de ce projet. Les communautés Havu de Tchondo et Kagarama, dit-il, se côtoient par le trichement des travaux de cantonnage manuel du tronçon routier Minova Tchondo. Emmanuel Chimanuka.
Ce projet vraiment a atteint son objectif visé qui était de faciliter cette cohésion pacifique à travers les activités. Les gens de Tchondo et Kagarama se côtoient déjà, lesquels n'étaient pas le cas avant que ce projet ne soit mis en œuvre.
L'administrateur a dit intérim du territoire de Calais s'est réjoui par la réhabilitation de ce tronçon routier. Lebo Bati Bialenga demande à toutes les populations de son entité territoriale d'adhérer au processus de la recherche de la paix créé à la suite de ce projet intégral de leur milieu. Lebo Bialenga.
De part d'abord le lancement du projet, ça rentrait dans le contexte de la cohésion sociale. Si le conflit qui divisait une partie des communautés entre les dossiers Chombéré et Nguesaï, on voulait que toutes ces communautés puissent cohabiter, travailler ensemble. Les conflits, on en parle plus.
Les travaux de réhabilitation de ces tronçons routiers ont duré 6 mois. C'est l'ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés qui a réalisé ces travaux. Minova, Ezekiel Batumike, Radio Communautaire Bubandano pour Radio Okapi.
Écho d'économie. En Mbujimayi, il y a eu clôture le lundi dernier d'une session de formation sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics. Une formation tenue à l'intention des agents et cadres de 2 communes de la ville de Mbujimayi. Chris Moukand nous en dit plus.
La formation a été organisée par l'autorité de régulation des marchés publics avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle a concerné les agents des communes de Bipemba et Mouya. Objectif de cette formation, doter ces communes pilotes des structures de gestion des marchés publics. Durant 4 jours, des facilitateurs de l'ARMP ont formé les futurs animateurs des cellules de gestion de projets et des marchés publics de ces 2 communes. Selon Céleste Mouzikessa, membre de l'autorité de régulation des marchés publics à mission en Mbujimayi, les communes, conformément à la nouvelle réglementation en marché public, constituent les autorités contractantes. Les dispositions de l'article 13 alinéa 1er de la loi relative au marché public voudraient que chaque autorité contractante dispose en son sein d'une cellule de gestion de projet des marchés publics. C'est à ce titre que le PNUD a financé la formation des futurs animateurs de ces 2 organes implantés dans les 2 communes, indique la même source. Le ministre provincial du Plan, qui a clôturé cette formation, encourage les participants à s'approprier ces connaissances acquises. La province compte sur eux pour étendre cette expérience aux autres communes, cela dans le cadre de la décentralisation. Jean-Claude Moussas Magnong exhorte les bourgmestres des communes ciblées à capitaliser les acquis de cette session afin de mieux gérer les marchés publics dans leurs entités respectives. Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Et Mireille Bukasamu Kendi fait son entrée dans ses studios pour nous parler de l'ARMP, entendez, l'autorité de régulation des marchés publics.
L'avènement de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP en sigle, remonte à 2001 avec la reprise de la coopération structurelle entre la RDC et les partenaires multilatéraux et bilatéraux, notamment les institutions de Bretton Woods. L'idée de créer l'autorité de passation de marchés publics de la RDC est née du constat selon lequel le système de conclusion des marchés publics au Congo était devenu obsolète face aux impératifs de transparence, de rationalité et d'efficacité. Avec l'implication du gouvernement, une commission dite la commission de réforme des marchés publics COREMAP sera instituée avec pour mission de procéder à une évaluation en profondeur du système. Ainsi fut créée par ordonnance du 2 juin 2010 la RMP, qui est donc un établissement public à caractère national doté d'une personnalité juridique. Elle est placée sous la tutelle directe du Premier ministre. Son siège est établi à Kinshasa avec possibilité d'étendre ses antennes dans toutes les provinces de la RDC. La RMP défend trois valeurs, à savoir la transparence, l'équité et la probité. Par la transparence, la RMP cherche à accorder un égal accès à tous les acteurs de la commande publique pour éviter la corruption. L'équité suppose un traitement sur même pied d'égalité de tous les acteurs soumissionnaires. Et enfin, par la probité, la RMP tient au principe d'éthique et de la morale pour un traitement honnête et objectif des dossiers. L'autorité de régulation des marchés publics a pour mission assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics sur toute l'étendue de la RDC. Et depuis hier, ce sont les agents de l'État de Tshilenyi au Kasaï oriental qui bénéficient d'une formation de l'ARMP sur la gestion des marchés publics.
Merci d'avoir suivi ce magazine supervisé par Léonard Moulamba et merci à Bob Landou qui a assuré sa mise en onde.